Vous écoutez La Croche-Oreille.
Alors salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, heureux de vous retrouver à l'antenne de la Radio Sonore de Québec, CKRL le 89.1 sur les ondes et le ckrl.qc.ca sur le web. La Croche-Oreille, c'est l'émission consacrée aux arts sonores et aux musiques nouvelles, musiques expérimentales que j'appelle musique merveilleuse, et c'est dans cette veine que je vous propose ce soir une incursion dans le travail artistique de Charles-Émile Beulac, qui diffuse ses œuvres sonores sous le nom de Galerie Stratique. Charles-Émile est très actif sur la scène sonore et électroacoustique depuis le début des années 2000. Il a produit plusieurs albums et collaboré à de nombreuses productions. Il a produit un album récent intitulé « Soleil trompeur » qui propose une relecture de certaines œuvres, ce qui constituait, il me semble, un beau prétexte pour parler de son travail un peu plus largement. Alors, captivé, dit-il, par le monde sonore qui l'entoure, Charles-Émile capte les sons et les transforme jusqu'à en épuiser le potentiel, histoire de livrer une expérience sonore singulière. J'ouvre les guillemets, il dit, si je devais définir une constante dans mon travail, ce serait sans doute le plaisir de combiner l'illusion du familier et l'éclatement des genres. Cela dit, parole et sono en compagnie de l'artiste sonore Charles-Émile Beulac, dit Galerie Stratique. Charles-Émile, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer à nouveau.
Merci beaucoup, Gaëtan.
Charles-Émile, écoute, lors de notre dernière rencontre, ça fait quelques années tout de même, tu racontais avoir, étudié le violon. J'aimerais ça qu'on revienne sur ton parcours musical, parce qu'il est, c'est un parcours qui me semble un peu atypique. Et j'aimerais t'entendre là-dessus. Comment ça démarre, la musique, dans ton univers?
Ça remonte à vraiment, il y a vraiment plus loin que ce que je peux me souvenir, là, parce que c'est sûr, mes parents m'avaient donné des cours de violon très jeune, et puis eux, c'était pas, je viens pas d'une famille de musiciens, mais j'aimais beaucoup en parallèle à ça, la musique, j'aimais écouter les disques de la collection de disques de la famille, et puis j'ai toujours été réceptif à tout ce qui évoque un peu le. Ce qui est abstrait, ce qui évoque un peu la science-fiction. J'aimais la science-fiction. J'aimais beaucoup les musiques électroniques très, très jeune. Et puis, bien que je jouais du violon, j'avais pas forcément une grande motivation. Je sentais pas un certain appel, mais dès que je voyais des synthétiseurs, des claviers, je faisais aussi de la flûte. On dirait, j'aimais aller un petit peu en marge de la musique, essayer. J'étais attiré vers le progrès musical un peu, la découverte. Et puis, ça m'a toujours inspiré, même plus tard, un peu, peut-être vers 11 ans, je me suis mis à écouter un petit peu même de classique, et puis je voulais être compositeur. On dirait que c'était comme inscrit en moi le désir de composer. Je ne sais pas ça vient d'où, mais ça a toujours été un petit peu latent en moi.
Charles-Émile, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. C'est un peu traditionnel, mais elle est tout de même. Ça pique toujours un peu ma curiosité. Quel a été le moment d'éveil pour l'expérimentation? Parce que bon, on fait de la musique, on se frotte aux instruments, mais cet intérêt, cette passion pour creuser, pour explorer la matière musicale au départ, puis ensuite la matière sonore.
C'est venu en plusieurs phases. J'avais un ami avec qui on faisait de la musique quand j'avais peut-être une douzaine d'années. Il y avait un synthétiseur. Mais j'avoue que j'avais pas énormément de talent pour composer. Mais ça m'est venu un petit peu plus tard que la motivation. À la fin du cégep, là, j'avais acheté d'un de mes collègues, un de mes amis à l'école, un synthétiseur analogique, là, un Mini-Korg 700. Puis, on dirait qu'à partir de là, je me suis dit, ah ouais, mais il y a quelque chose à faire avec ça. On avait eu des projets aussi au cégep. Et puis, à partir de là, je m'étais comme mis en tête là, que j'allais faire quelque chose là-dedans. Puis, je me suis mis à acheter des synthés ou essayer de trouver un peu des manières de composer avec des enregistreuses. À cette époque-là, il y avait des nouvelles opportunités qui sortaient. Il y avait les mini-disques qui enregistraient bien, qui étaient quand même abordables. Puis je me suis mis à faire ça de façon intuitive un peu. Mais lorsque ça a vraiment commencé, c'est plus vers le début vingtaine, à peu près.
Charles-Émile, si tu veux, on va faire entendre aux auditeurs une pièce. C'est tiré de cet album intitulé Rêve de béton. Quand on s'est vu il y a quelques années, c'était au centre de ta création, une pièce qui s'intitule Sur les galets, marée montante. Et puis on poursuit ça ensemble, cette conversation.
Thank you.
Charles-Émile, cette pièce qu'on vient d'entendre sur les galets, marée montante, c'est tout de même une pièce là, qui propose des caractéristiques là, presque d'époque.
Bien, il y a plusieurs éléments sur cette pièce-là dont je pourrais parler. Dès le début, elle commence avec des sortes de petites sonorités. C'était quelque chose que j'ai exploré un peu, mais qui est devenu très populaire aujourd'hui avec les ASMR, là, les petits sons qui font un peu réagir, là. Je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque où l'album a sorti, mais c'est devenu un petit peu à la mode par la suite, là. Donc ça, c'était un point intéressant. Mais une autre particularité, c'est que ça enchaîne avec Marée montante, qui, je crois, est la première pièce où j'utilise le vibraphone. Je m'étais acheté un vibraphone il y a longtemps, peut-être une dizaine d'années, une douzaine d'années. Puis j'ai mis quand même un certain temps avant de l'incorporer à ma musique. Puis ça a été un peu laborieux. Il fallait que je le découpe en petites parties. Puis c'est une des premières pièces aussi où j'ai utilisé les drones de modulaires, là. Donc, c'est vraiment une fusion des styles, là, des sons trouvés, d'instruments de musique, modulaires. C'est une fusion, quand même, qui était agréable à produire.
Oui, ça illustre assez bien le processus que tu mets en branle pour la création de tes œuvres. Charles-Émile, tu as tout de même produit depuis plusieurs albums. Un de ceux, un des récents qui attire mon attention, il s'intitule Land for Sale, qui reflète une interrogation de départ, c'est la tienne, et je te la relance. Tu racontes, tu dis, composer, c'est comme résoudre une énigme. Et ça nous amène, je dirais, à toute la question du processus, puis de ce qui t'habite quand tu abordes un projet comme Land for Sale, par exemple. Et j'aimerais ça t'entendre là-dessus.
Peut-être que des fois, quand on est amené à produire de la musique, des fois on se fait poser la question, comment tu décrirais ta musique? Puis j'ai jamais aimé cette question-là. Enfin, j'ai jamais eu vraiment de réponse à donner. Mais je m'étais rendu compte quand même au fil du temps, me posant un peu cette question-là par moi-même, que la nature de ma musique était assez interrogative. Puis je me suis dit, peut-être ça va un peu avec ma personnalité. Je suis quelqu'un qui me suis toujours, là, peut-être dans mon essence, l'essence de ma personne d'être dans la créativité musicale, mais c'est aussi dans l'essence de ma personne d'être très curieux. Je l'ai toujours été, là. Et puis, je me suis rendu compte que ma musique n'est pas affirmative. Je pense que c'est Leonard Cohen qui disait qu'un poète, c'est que celui qui fait des verdicts sur les choses. Il voit une montagne, il voit un lac, il voit une situation et puis il pose un verdict. Mais c'est pas du tout le cas en ce qui me concerne dans ma création. On dirait que c'est plus comme si je posais une question. On dirait souvent les pièces de musique se terminent souvent comme si c'était une énigme non résolue ou comme si ça invitait à poursuivre la réflexion. Donc ça, c'est d'une part. Mais d'une autre part aussi, dans les méthodes que j'ai utilisées, c'était un peu comme une énigme. Si j'explique, c'est que j'ai fait beaucoup d'improvisation, un petit peu comme j'avais fait dans mes précédents projets, d'improvisation musicale, sans avoir forcément une idée directrice précise, à part que de profiter du moment, d'une ambiance, d'un instrument ou d'une configuration d'instrument de musique. Puis c'est par la suite que j'isolais des petits bouts et puis je me disais, mais ça, puis ça, j'aimerais les mélanger ensemble. Je sais pas comment. Mais il va avoir une façon de le faire, une façon d'y arriver. Et puis, je le prenais comme si c'était une énigme à résoudre, comme s'il y avait une solution réelle, puis c'était à moi de le découvrir. Puis, je me cassais un petit peu les méninges pour essayer de faire arrimer tout ça. Et puis, c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'au final, j'avais l'impression un petit peu moins de composer que d'essayer de trouver une réponse à un casse-tête. Le côté ludique, quand même, est important. Il faut qu'on s'amuse. Et puis, c'est un petit peu vaguement la ligne directrice que j'ai adoptée, puis que je continue à adopter quand même. Quoique ces derniers temps, j'aimerais essayer d'avoir un petit peu plus de contrôle sur ce que je fais. Mais disons, j'étais vraiment dans ce genre de phase musicale-là à cette époque.
Ouais, je vois très bien un côté un peu cajun là dans ta démarche, un peu d'aléatoire, un peu de ludique. Charles-Émile, on va écouter un extrait de ce bel album qui s'intitule Land for Sale. une pièce intitulée Olim 2. On écoute ça. Charles-Émile, t'as produit un album, lancé un album qui est signé Sabaturin Kenemlev. C'est une collaboration avec Simon Cram. C'est un pionnier de la sono post-industrielle britannique. Comment se fait cette rencontre? Parce que c'est très intéressant comme travail, un peu loin de l'expérimentation proprement dite, mais c'est aussi un des courants que tu exploites là, depuis toutes ces années.
On était mis en contact par personne interposée. J'avais un collaborateur à l'époque, et puis il distribuait au Canada cet album-là là, de Simon Crabb qui s'appelle « After America ». Que j'avais beaucoup apprécié. J'avais exprimé à cette personne-là mon appréciation pour l'album. Et puis, Puis lui, de son côté, avait dit, ben, j'aimerais bien collaborer avec il aimerait bien collaborer avec moi. Donc, ça s'est fait au fil du temps. Quelques mois plus tard, j'ai envoyé un paquet de maquettes, des pièces à moitié conçues, des petits extraits, des boucles sonores. Et puis rapidement, il m'est revenu avec des idées. Souvent, c'était des rythmes un peu plus, pas agressifs, mais affirmatifs. Si j'étais plus, je mentionnais plus interrogatif dans mon approche, lui, il est très affirmatif. Ça m'a un peu surpris au début. C'était un petit peu plus intense que ce que j'avais imaginé au départ, parce que ses albums, ils étaient quand même assez délicats. Donc, je pensais que ça allait bien se fusionner ensemble, mais il m'a amené vraiment ailleurs. D'ailleurs, dès le début, je lui ai dit que ça sortait un petit peu de ma zone de confort, puis il avait dit que ça, ben, que c'était une bonne chose. Donc, on a poursuivi dans cette voie-là. Puis, d'ailleurs, le titre. Le nom Sabaturin, ça veut dire en réalité à cloche-pied en langage breton. Et puis Canemglève, ça signifie, je vais sans doute mal le prononcer, mais ça signifie consensus. Donc, on avait choisi une langue aussi, des titres, puis des noms, parce qu'il tenait à avoir un nom de projet au lieu que ça soit comme une association, là. Puis c'est très difficile de trouver un nom de projet musical quand on fait des démarches, là, qu'on regarde. Il y a toujours un nom qui existe ailleurs. Donc j'ai proposé qu'on puisse y aller avec des titres bretons, parce que c'est un peu un terrain neutre entre la culture anglo-saxonne et puis la culture française. Puis ça a donné des noms un peu plus inédits, qui sont peut-être pas toujours bien compris par ceux qui écoutent, mais je trouvais que ça amenait un terrain neutre intéressant pour notre projet.
Ouais, tout à fait. Écoute, on va écouter une pièce tirée de cet album, Sabaturin, Canemlev. La piste numéro 9, ça s'intitule Mourgus Gus. On écoute ça. Alors voilà ce qui complète la première demi de l'émission. On revient très vite avec cette conversation avec l'artiste Charles-Émile Beulac, dit Galerie Stratique. Restez des nôtres, je suis de retour après un bref battement promis.
Vous écoutez La Croche-Oreille.
Alors voilà, on est de retour, c'est La Croche-Oreille, jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL de 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions archivées. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Au programme ce soir, un entretien chaleureux avec l'artiste sonore et compositeur Charles-Émile Beulac, un artiste de Québec qui combine avec beaucoup de doigté sonorité d'avant-garde, art sonore, atmosphère lounge, ambiance classique et musique inclassable. Il a produit ces dernières années de très beaux albums, dont Stainless Sorrows, Land for Sale, dont on a parlé, et son dernier, Soleil trompeur. Tout dernier qui s'avère une réflexion sur le travail accompli depuis le lancement de son premier album en 2001. Ça fait une vingtaine d'années tout de même. Alors, pour aller plus avant, on poursuit ensemble l'écoute des travaux de Charles-Émile, assortis de ses réflexions sur les enjeux de la création sonore.
Thank you.
Charles Émile, en parlant de la Bretagne, on parle de territoire, ça m'amène à cet univers de l'inspiration. Bon, les titres sont parfois de hasard, les albums construits aussi sur des bases parfois aléatoires, mais qu'est-ce qui t'inspire dans le processus de création ou même, je dirais, dans ta vie d'artiste en général? Quels sont tes points d'ancrage là qui font que ça c'est ou je dirais il y a peut-être des éléments où tu es plus attentif là dans le monde de la création?
De façon générale, je me laisse souvent inspirer par les sons eux-mêmes. Donc, le fait d'avoir des générateurs de sons fait en sorte que ça m'amène à quelque part. Donc, je réagis souvent à la matière sonore. Donc, ça, j'aime bien. Et puis, à cet égard-là, mais ça fait un petit peu comme un travail de sculpture, des fois. Donc, on se laisse porter par le son. Ça, c'est un des aspects. Des fois, j'ai une vision aussi avant de créer, pas une vision, mais une intention d'ambiance. Aussi, ça peut être des fois de se laisser inspirer par une lumière, une couleur, une expression. Puis des fois, au fur et à mesure que la création se fait, bien, des fois, on oublie un petit peu l'inspiration de départ. Puis on peut y revenir des fois pour d'autres projets. Mais j'ai rarement l'intention de passer un message. J'utilise pas la musique comme moyen de véhicule pour transmettre ce que je pourrais exprimer en mots. C'est quand même moins facile qu'avant se laisser inspirer. Il y a énormément de musique de qualité qui se produit aujourd'hui. Puis pour peu qu'on soit curieux de voir ce qui se passe comme je le suis, bien des fois ça nous amène à remettre en question ce qu'on fait. On réalise que des choses qui existent déjà, qu'on aurait peut-être aimé créer, on aurait aimé aller dans cette direction-là. Mais ça nous remet souvent en question. Puis présentement, je dois admettre que je suis dans une phase plus de réflexion que de création. Mais je vais essayer de trouver un prochain point d'ancrage pour mes prochaines productions.
Tu viens de produire, Charles-Émile, une production qui est un remix. Ça s'intitule Soleil trompeur. Tu racontes que c'est une suite de la création Horizon lointain. Et tout ça à l'écoute, un album qui est très intéressant, m'amène naturellement à cette question. Quand on retravaille une œuvre, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui a changé dans ton univers de création depuis 20 ans, parce qu'il y a presque 20 ans qui séparent Horizon lointain du Soleil trompeur édition 2021-2022.
C'est une bonne question. C'est la question que je me posais un peu en le faisant. Juste pour préciser, tu parles de remix, mais c'est peut-être plus un remake en réalité, parce que j'ai pas reparti sur la piste telle quelle, mais sur les mêmes composantes de base, là, les sons de base. Je voulais voir où est-ce que ça pourrait me mener aujourd'hui. Parce que moi, quand je fais le bilan de tout ce que j'ai produit, ça reste cette époque-là, disons, de ma production musicale qui est la plus écoutée. Donc, j'étais curieux de voir si je pars de ces éléments-là, est-ce que ça pourrait amener quelque chose d'intéressant, de pertinent? Est-ce que ça serait la même chose? Est-ce que ça serait un peu le même genre de résultat ou ça serait différent? Bien, je me suis rendu compte que c'est un petit peu entre les deux. Il y a des éléments qui sont revenus, mais il y a aussi un élément. C'est peut-être au niveau de la rythmique qu'il y a une certaine évolution dans la production, dans la perception aussi qu'on a de ces sons-là. Mais j'ai mis énormément de temps avant d'arriver. On dirait que je tâtonnais. C'est pas facile de repasser dans les mêmes pistes sans mettre les pieds au même endroit. Donc j'ai essayé un petit peu d'être dans le même esprit en contournant. Puis ça a été pour moi parler de casse-tête, mais ça a été un bon casse-tête pour moi, cet exercice-là.
Tu l'as un peu évoqué tout à l'heure, il y a une richesse assez inouïe de production maintenant. Comment tu vois le défi des prochaines années pour les créateurs, soit musiciens, soit des artistes sonores? Comment se profile l'avenir pour toi? Parce qu'on est tout de même dans une période extrêmement, à la fois fertile, mais aussi où il y a beaucoup de bruit, je dirais, autour des productions artistiques, même en général.
Le défi, c'est de pas trop se laisser ou de pas se laisser influencer. J'en suis un peu participant aussi, ou je peux pas dire victime, là, mais on est tous un peu à l'affût de certains tutos. En tout cas, moi, je le suis sur Internet, des fois, pour voir comment produire tel élément. Et puis, je trouve ça enlève un peu de la spontanéité. Maintenant, quelqu'un peut se lancer dans la musique puis faire de la composition un peu comme on fait une recette de gâteau. Là, il y a des éléments qui sont éprouvés, qui sont efficaces, puis que tu peux utiliser. Puis c'est difficile peut-être d'en faire complètement abstraction. Autant que c'est difficile de faire une production de qualité exceptionnelle qui répond à tous ces critères-là. Des fois, je suis un petit peu tiraillé entre les deux. Faire une production de meilleure qualité ou de me laisser aller à faire un peu n'importe quoi selon mes caprices du moment. Donc, ces temps-ci, je suis un peu préoccupé par l'idée de me refaire une base d'outils ou de sons. Puis j'aimerais ça avoir une idée aussi, je suis en train de travailler là-dessus, là, en enregistrant des sons avec une enregistreuse personnelle portable, pour avoir une sorte de palette. Peut-être des directeurs photo, une palette de couleurs, mais moi, j'aimerais ça avoir une palette de son, une palette d'ambiance très spécifique avec laquelle j'aimerais travailler. Puis, un petit défi personnel que j'aimerais me donner, c'est de moins charger, d'aller plus, façon plus dégagée, plus aérée au niveau du mix. Là, ça demande une certaine confiance en soi pour y aller de façon très minimale. Confiance, j'ai peut-être pas personnellement développée. Certains vont apprécier davantage, peut-être, d'autres moins, mais c'est ce que j'aimerais tenter.
Oui, tout à fait. Mais Charles-Émile, on va écouter un extrait de cet album tout récent, Soleil trompeur, une pièce intitulée « Il y avait une forêt ». C'est un titre, ça, qui évoque pour toi quelque chose de particulier, tout de même.
Oui. Mais ce qui est intéressant avec cette pièce-là, « Il y avait une forêt », c'est que j'étais dans l'optique d'y aller avec un album ou un mini-album qui serait inspiré par de la musique que je faisais il y a 20 ans, mais je suis revenu dans ce que je voulais faire aujourd'hui. C'est un peu la conclusion, disons, c'est la dernière des pièces que j'ai composées, et pas, c'est pas la dernière de l'album, de ce mini-album-là. Mais ça montre que oui, même si on peut regarder vers l'arrière, en fait, on finit toujours, on n'est jamais la même personne qu'on était il y a 20 ans. Puis il y avait une forêt, c'est vraiment le genre de production que j'aime faire aujourd'hui, vers lequel je tends actuellement.
Charles-Émile, pour clore notre échange, notre conversation de ce matin, la période est pas facile pour les créateurs. Tu as des projets qui sont en marche pour les prochains mois. Tu as évoqué ces réflexions que tu mènes, travail de recherche aussi en studio. Comment tu vois venir les prochaines semaines, les prochains mois pour toi sur le plan de la création, peut-être de la diffusion?
Mais comme je mentionne, je suis un petit peu plus en mode réceptivité. Je prépare mes outils pour être en mesure de produire de façon encore plus intuitive, mais avec un petit peu plus de contrôle. J'avoue que j'ai été quand même paresseux un peu dans les dernières années. J'ai utilisé un seul, peut-être deux logiciels, Audacity, tout simple, puis AudioMolch pour créer ma musique, mais ça vient, c'est inhérent avec certaines, ça vient avec certaines limites, parce que, par exemple, AudioMolch, c'est un logiciel qui n'a pas été mis à jour et puis qui a certaines limites. Donc, j'avais envie d'aller au-delà de ces limites, parce que j'ai en tête des choses que j'arrive pas à reproduire avec ces outils-là. Mais en même temps, c'est un peu fastidieux, là, le fait d'apprendre des nouveaux outils. Donc, j'ai fait un petit peu d'essai-erreur avec en achetant certains samplers, certains échantillonneurs, en les revendant. Là, bien, je crois être arrivé quand même à un certain équilibre entre un minimum de matériel pour un maximum de facilité. Hein. Du moins, je suis un petit peu en train de peaufiner ça pour que quand je vais recommencer à travailler, que les choses aillent de façon naturelle. Puis intuitive.
Tout à fait. C'est intéressant, Charles-Émile, ce que tu évoques, parce que on réalise qu'avec des outils finalement très accessibles, on peut arriver à de la production de très haut niveau. Je pense évidemment à ta production. Charles-Émile, grand merci de m'avoir accordé cette belle rencontre ce matin. Et au plaisir, on va clore ça en écoutant un autre extrait de ton projet Soleil trompeur.
Merci beaucoup.
Alors voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste Charles-Émile Beulac, connu sous le nom de l'artiste Galerie Stratique. Grand merci à Charles-Émile de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp. Alors pour clore l'émission, je vous fais entendre une dernière pièce tirée, celle-là, de l'album Stainless Sorrows. Voilà, de Galerie Stratique. Alors sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre aventure sonore. Alors voilà, ici Gaëtan Gosselin qui vous salue.